On va passer à un autre sujet qui va vous intéresser aussi. Là, on va parler des producteurs. Aujourd'hui, vous le savez, on veut tout mettre dans des cases, y compris ce qu'on mange. Et il y a le fameux Nutri-Score. Ah, le Nutri-Score. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est cinq petites lettres qui vous disent si vous allez manger trop gras, trop salé, trop sucré. Cinq petites lettres de A à E, mais les produits locaux. Eh oui, râle, alors que ce Nutri-Score pourrait bien être obligatoire en France, car, prendre un exemple, un bleu du Kera, ou un petit banon bien crémeux, pourrait être classé E, alors que le fromage de la vache qui se marre pourrait être classé B, lui. Oui, c'est bien d'être visible pour aider les consommateurs à comprendre ce qu'ils achètent, mais ça pourrait bien désavantager les produits de nos terroirs. Et je regardais à l'instant sur la table ce qu'il y avait à manger. Et je vois une terrine magnifique.
Elle n'a pas de Nutri-Score.
Classée A.
Alors, attends, comme ta terrine, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Ouais. Voilà, mais on l'a goûtée, c'est vraiment du bonheur. Voilà, c'est du produit vraiment local. Et à côté, il y a un paquet de chips.
Il est C, lui.
Voilà, lui est C. Ouais. Mais demain, ta terrine, si tu as le Nutri-Score, elle sera E.
Ben oui.
Voilà. Alors.
Oui, mais. Thierry, je t'arrête tout de suite. Tu sais pourquoi? Parce que là, ça vient aussi de l'éducation.
Exact.
De nos concitoyens. On n'a pas besoin de Nutri-Score pour savoir que le beau pâté que j'ai mangé tout à l'heure, qui est extraordinaire, lui, il est classé E. Mais tu as remarqué, j'en ai guère mangé.
Ouais.
Parce qu'à mon âge, je fais gaffe. Donc on n'a pas besoin de Nutri-Score pour se réguler soi-même.
Oui, mais enfin,
il suffit d'un peu d'intelligence et d'instruction.
Attendez.
Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'en manque d'intelligence, je crois.
Je sais pas, moi. Moi, c'est pas le Nutri-Score qui me décide si je.
Attendez.
Après, sur les produits.
Non, mais tu lances des sujets, puis après, tu veux pas.
Je vais vous faire écouter quelque chose. Après, je voulais donner la parole à Gérard.
La parole à Gérard. Donc, effectivement, le pâté était excellent. Le pain. Aux olives aussi. Je regrette qu'il n'ait pas été aux noix. Oh,
bah oui, mais
aux oméga 3, ça aurait peut-être compensé le surplus du pâté.
Faut se plaindre à Rodolphe, c'est le vieux four à Talard. Il n'avait plus de pain.
Il n'avait plus de pain aux noix.
Non,
bon,
par contre,
qu'est-ce que tu en penses de cette classification qui pourrait être un vrai problème pour les producteurs locaux?
Comme dit Jean-Claude, je crois que l'être humain aujourd'hui, on le pousse à être irresponsable. Plus responsable, quoi. Alors, je crois que il suffit de savoir.
Le bleu du Kera, on va pas manger tous les jours. On sait très bien que c'est mauvais pour la santé. Par contre, moi, j'en mange, je suis aux anges, quoi. Mais après,
il a coupé la parole à Gérard.
Gérard,
il m'a coupé la parole. Je la reprends. Donc, je continue. Effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin de Nutri-Score. Mais ce qui est extraordinaire, moi, je vois mes petits enfants, ils sont extrêmement attentifs à ça.
Eh oui.
Donc, quelque part, on les formate à ça. Mm-hmm. Alors que des produits tels que l'on a sur la table aujourd'hui ou qu'il y a dans tout le département. Évidemment qu'il n'a pas besoin de Nutri-Score, quoi. Au contraire, ça va quelque part le dévaloriser. Heureusement, les agriculteurs du département, structurés comme ils le sont, ils n'ont pas besoin de Nutri-Score pour faire passer leurs produits. Je veux dire, il y a quand même une reconnaissance. Voilà. Donc il faut qu'on travaille encore aussi cette marque que nous avons à l'échelle du département pour essayer de contourner ce dispositif qui sont finalement très, je dirais, industriels. Quoi.
Oui. Eh bien, je vais vous faire écouter donc une analyse du Nutri-Score. Je dirais ce que vous en pensez. Et c'est très intéressant. Écoutez bien parce que il y a différents angles qu'on n'a pas abordés justement sur ces fameuses petites lettres.
Les producteurs de Roquefort ont levé non pas une jolie brebis, mais un très gros lièvre. Le Roquefort, figurez-vous,
menacer le Roquefort par le Nutri-Score.
C'est noté E. Et c'est extrêmement pénalisant pour les ventes d'un produit d'être noté E. Le Roquefort, je ne vous l'apprends pas, c'est gras, c'est salé, c'est comme ça. C'est comme le Brie, une foule de produits IGP, AOP. Bon. Et oui, c'est pour ça que c'est bon. Aussi comme l'huile d'olive, qui est un bon produit de diète méditerranéenne, mais qui est noté D. Des cancres alimentaires, selon le Nutri-Score. Et c'est d'autant plus rageant qu'on trouve des sodas, des céréales sucrées, des plats cuisinés, même des frites qui sont notées A ou B. Il y a trois choses et trois pièges. La première chose, c'est que le Nutri-Score résonne avec des quantités de 100 grammes ou 100 millilitres. Alors, il est assez rare qu'on s'enfile d'un coup. 100 grammes de Roquefort, ça m'arrive, mais c'est rare. Ou une bonne grosse louche d'huile d'olive, je pense que ça n'arrive assez rarement. Ça ne tient aucun compte de la portion. C'est totalement absurde. Et puis ensuite, le Nutri-Score, ça résonne dans l'absolu. C'est comme noter le beurre sans dans les épinards. Ça n'est pas fait pour comparer un régime alimentaire varié. C'est un comparatif de produits de même catégorie et pas un repoussoir. Et en fait, on le prend pour ce qu'il n'est pas. C'est un malentendu.
Donc, et il y a assez déjà deux biais. Il y a un troisième biais.
Ah oui, alors celui-là est vraiment intéressant. Là où les fabricants de produits transformés, des plats tout prêts, les céréales, les sauces, peuvent améliorer leurs recettes. Enlever un peu de gras, un peu de sel pour faire avoir une meilleure note, c'est impossible pour le Roquefort. C'est impossible pour la fonte de Montbrison ou la boulette d'Avène. La recette, elle est ancestrale, encadrée par un cahier des charges. Le fromage, c'est du gras, du sel, des ferments, rien de plus, rien de moins. Zéro marge de manœuvre. Ils sont condamnés à être de mauvais élèves.
Et voilà, c'est terrible. Voilà.
Moi, j'ai un petit proverbe. C'est la dose fait le poison.
Ah oui, bah oui. Voilà, c'est, voilà tout oui. est la bon, dose, mais ça dépend à quel niveau tu veux le manger. Oui.
Il faut manger. On peut bien manger du bleu, de la charcuterie, etc. Mais il faut manger équilibré. Mais c'est du bon sens.
Bien sûr.
Quand est-ce qu'on retrouvera du bon sens?
Oui, mais d'un autre côté, Gérard a raison en disant les jeunes s'intéressent effectivement à tout ça et c'est pas normal de voir un soda qui va être noté B et un morceau de fromage au lait cru qui va être noté E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se jeter sur le soda et on va abandonner le fromage. C'est ça le problème.
C'est pour ça qu'il faut peut-être travailler.
Tu parles de bon sens. Toi, t'as du bon sens. Oui, mais tout le monde n'a pas de bon sens.
C'est peut-être qu'il faut travailler au niveau des écoles, faut faire des travaux pratiques pour redonner une hygiène alimentaire aux jeunes. Qui n'ont plus peut-être dans les familles aussi.
Il faut faire un travail sur la prévention d'hygiène alimentaire. Et alors moi j'ai une application devant les yeux qui s'appelle Yuka, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, bien sûr. Bon, mais
je m'en sers. Pourquoi? Parce que là on voit s'il y a des additifs et on sait que
c'est ça qui est intéressant.
Et c'est sur, notamment sur les produits industriels, alimentaires industriels. Et là, c'est assez intéressant.
Et ils proposent des produits de remplacement, de substitution. Voilà.
Donc moi, plutôt que le Nutri-Score, j'aurais envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent...
Téléchargez Yuka
et vous verrez...
C'est vraiment très bien.
Vous verrez que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est vrai que le Nutri-Score, c'est fait pour des produits industriels. Ouais. C'est pas fait pour du pâté.
Ça s'appelle du gadget. Ça s'appelle du gadget. Allez, on va passer à un autre sujet. Ah, François Hollande. Vous êtes content, Pépère est de retour.
Bah oui,
François Hollande sort.
Alors là, on est sauvé. Hein.
François Hollande sort du bois et un livre en même temps où il étale toute sa rancœur et son mépris envers Emmanuel Macron. Alors que dit-il? Un homme d'aucune doctrine, un voyageur sans boussole, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. L'image est jolie. Mais bon, venant de Pépère, ça peut laisser un peu rêveur. On ne peut pas dire qu'il aura laissé un souvenir impérissable dans la Ve République. Du coup, que répond Macron, sur cette leçon faite par son ancien ami? Il répond ça.
Il me donne un cours, bravo. Approche d'ajout, je vais te donner une leçon pour la mémoire. Répète après moi, je suis un âne batté. Dios.
Voilà. Et alors, en plus d'étrier Macron, il étrie aussi le PS. Il dit, à gauche, toutes les candidatures sont lilliputiennes. En oubliant, lorsqu'il a quitté la présidence après son quinquennat, le représentant du PS présidentiel, Benoît Hamon, avait réalisé 6,36% au présidentiel. On ne pourrait pas dire que le quinquennat d'Hollande aura été bénéfique pour le Parti Socialiste, qui est toujours aujourd'hui plus bas que terre. Voilà, c'est vraiment l'hôpital qui se fout un petit peu de la charité. Alors, est-ce qu'un président doit parler comme ça?
À sa place, je me la fermerai.
Il aurait dû faire...
Quand il est arrivé, ce brave homme...
Le nouveau Jean-Claude Hérault.
Mais
il faut être logique.
Non, mais quand il est arrivé aux affaires, entre guillemets, aux affaires...
Par accident.
La gauche était partout majoritaire. Au Sénat, au Parlement, partout. À l'Assemblée, on était... Enfin, je m'y mets dedans, puisque je suis de gauche. Et j'ai toujours voté à gauche, je m'en cache pas. Et il est parti, on était... Tu avais 6%.
6,36. Hein.
Voilà. Alors, et après, ce gars-là, il se réveille et il vient de nous...
Il donne un cours.
J'étais fou furieux, quoi. il vient de nous donner des cours, lui. Il est vraiment plus mal placé. Moi, à sa place, je la fermerai. Excusez-moi de le dire comme ça.
Gérard, ton avis. Toi qui votes à gauche aussi.
Il faut les blâmer. Je sens Jean-Claude très remonté.
Ouais, bah attends. Non, sérieusement, Gérard.
Je suis à côté de lui. Vraiment, il parle du fond du cœur. Je sens l'électricité.
Hein, tu là, sens, hein, ouais. Tu sens qu'on l'aime.
Non, mais attends, il se fout de la gueule du monde, quoi. Alors, faut pas avoir peur de le dire.
Jean-Claude, depuis qu'il vote Macron, je te dis pas.
Mais non. C'est lui qui l'a mis Macron. C'est Hollande qui a mis Macron. C'était son ministre de l'économie.
Vas-y, ah, j'ai voté pour lui.
Attends, il est sûr à lui prendre la parole à Jacques. Tellement le sujet le motive.
À toi, GG.
Deux petites remarques. La première, il est sorti du bois. Je lui conseille d'y rentrer.
Je suis d'accord avec toi.
La deuxième.
Il se faire bouffer par un loup.
Alors.
Je ne l'ai pas dit, mais. Donc, la deuxième, je trouve quand même assez dégradant pour le personnage qu'il a été chef de la nation, de rentrer dans ce débat politique en essayant d'aller chercher tous les contestataires du monde. On sait que les Français, les citoyens, 70 à 80% s'identifient par du contre, par quelque chose de contestataire. Donc là, que fait notre ami Hollande ? Il rentre contre Macron avec beaucoup de critiques, je trouve ça. Mais alors, pitoyable pour un ancien président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, notre société elle a plus besoin d'avoir des propositions, d'avoir de l'action, de la réflexion. Il y a des sujets qui sont primordiaux pour les générations futures. La planète, j'aurais largement... C'est un personnage que j'aurais pu un peu apprécier s'il était revenu en disant « Oh là, la planète, il y a des problèmes. Pensons à nos générations futures, il y a des gros problèmes. Essayons d'être collectifs. » Non, même pas. Même pas cette intelligence-là. Vraiment, je trouve ça pitoyable.
Et vous savez qu'il ne s'interdit rien éventuellement. Hein.
Il n'y a qu'à être candidat.
Vu l'état dans lequel se trouve le PS et vu les intentions de vote que pourrait avoir Anne Hidalgo pour la présidentielle, qui stagne aujourd'hui à 4% quand même, c'est-à-dire moins que Hamon il y a 5 ans. Donc voilà, le PS est toujours dans un vrai problème. Hein.
Il devrait se situer un peu comme a dit Gérard, en dessus quoi.
Au-dessus des partis.
Au-dessus. Je veux dire, il a été président de la République, il peut donner des avis sur des grands dossiers, des perspectives, ok, on lui demande. Mais là, qu'il rentre dans la tambouille politicienne, ça, franchement, je comprends pas. Là, je suis complètement scotché, moi, je vous le dis. Et en colère. Mais vous l'avez entendu. Hein.
Michel ?
Oui, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'ait pas force de proposition, comme Gérard l'a dit. Ce qui serait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est libre d'action, parce qu'il peut dire n'importe quoi, carrément. Mais s'il avait un véritable projet qui pourrait, entre guillemets, faire percevoir au plus grand nombre de notre pays, c'est que ça soit un projet d'intérêt collectif qui nous donne la perspective de nous engager, de nous unir pour faire ça, ça, avec son expérience, il aurait pu faire ça.
Oui, mais
il a fait que de la critique, c'est dépitant. C'est-à-dire qu'il va effectivement regarder le petit verrue qu'il a lui, ce truc-là, mais lui, il apporte rien. C'est désolant.
Mais a-t-il la crédibilité pour pouvoir faire aujourd'hui être force de proposition?
Il veut vendre son bouquin. Il veut vendre son bouquin.
Alors, comme tous. Oui. Moi, je suis plus sévère. Je dirais que globalement, il faut penser au-delà de ça. Une fois de plus, le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui ne correspond plus à notre société. Il faut quand même, à un moment donné, se poser les questions. C'est dommage. Moi, je le regrette.
Mais il n'y a pas que le Parti socialiste. C'est les partis traditionnels.
Oui, c'est vrai.
Les partis traditionnels vont disparaître.
C'est pas l'avis de Spagnol.
Oui, c'est pas l'avis de Spagnol.
On en a parlé avec Spagnol.
Mais les LR ne sont pas non plus au mieux. Hein. Ils ne sont pas au mieux. Non, ouais. Bien sûr. C'est... Mais les intentions de vote des LR, c'est pas terrible. Hein. Ils sont
placés. Ça dépendra ce qui va se passer le 3 décembre.
Ils sont quand même placés aujourd'hui. Alors, on est toujours dans les sondages. Mais ils sont placés aujourd'hui en quatrième position. Hein. Mmh. Derrière Macron, Le Pen. Et derrière, le fameux
Z.
Ah non.
dites, vous avez vu le prix de la pompe s'envole ?
Ah ouais, la pompe ?
Et je ne...
Non. Qui est dans le château la pompe.
Et je ne parle pas. Et je ne parle pas d'ici. Sérieux. Je ne parle pas ici de Lulu l'aspireuse qui sévit rue Saint-Denis à Paris, hein. Ni de Mado gorge profonde qui a pignon sur rue place Clichy. Non. Et
je préfère encore Lulu la Nantaise. Hein.
Et je ne parle pas non plus de la pompe qui en son temps fut rendue célèbre par Christine de Viejoncourt, hein, la fameuse chaussure, vous savez, de son amant Roland Dumas. Non, ici, On parle du prix de l'essence, les enfants. Le prix de l'essence qui s'envole. Les gilets jaunes qui sortent du bois aussi. Vous avez vu, ça a recommencé. Alors, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup sur les Hautes-Alpes. On n'en a pas beaucoup entendu parler ici. Mais sur les grandes villes, ça commençait à ressortir. Donc, c'est quoi la solution? Visiblement, on a trouvé une solution. Le chèque carburant, pardon. Le chèque comment?
Inflation.
Le chèque inflation.
C'est une indemnité.
Voilà, le chèque inflation à 36 millions quand même de foyers, ouais. On va dire ça.
De personnes.
36 millions de personnes, un chèque de 100 euros.
Aussi. Quelques milliards aussi.
Ouais.
On n'est pas quelques milliards près.
Alors, la question, Gérard, bonne solution ce chèque ou alors... Il faut aller taper là où on pourrait gagner plus d'argent et en perdre aussi pour l'État, à savoir les taxes.
Il faut préciser à Gérard que c'est l'essence pétrolière, c'est pas l'essence de lavande. Hein.
Ah bah oui, non. L'essence de lavande, on a déjà assez de problèmes comme ça avec la lavande aujourd'hui, alors on va pas en rajouter. Vas-y Gérard, parle-nous un petit peu de ce chèque, qu'est-ce que t'en penses?
Il y a aussi aujourd'hui l'obligation au gouvernement de faire quelque chose. C'est vrai que la tension monte. Par contre, j'aurais largement préféré que les gouvernements successifs se préoccupent du sujet. On est dans la civilisation du pétrole, mais là aussi c'est écrit, on sait que nous avons consommé la moitié de nos réserves mondiales, mais personne n'en parle. Donc ce qu'il est en train d'arriver, et ce qu'il arrivera, beaucoup le savent aujourd'hui. Simplement, il aurait peut-être fallu un peu anticiper, de façon, après, on a développé des énergies renouvelables, tout ce qui est solaire, éolien, il y a un grand boom sur le solaire. La question se pose sur le nucléaire. Il a été mal vu aujourd'hui.
Il faut garder le nucléaire.
Aujourd'hui, quand on voit la population de notre planète, ce vers quoi nous allons également, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour voir qu'on va vers des problèmes. Il aurait fallu anticiper. Bon, c'est vrai que c'est difficile de changer les choses lorsque, à l'échelle d'un État.
Parle bien devant le micro.
À l'échelle d'une planète, il y a une forme d'inertie, c'est évident. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un devoir de citoyen, un devoir collectif de prendre à bras le corps ces problèmes et d'en faire cette cause publique. Il faut en faire une cause individuelle de chacun. Il faut que chacun ait conscience de la situation. Ce n'est pas avec ce chèque, certes, ça va aider, mais ce n'est que reporter le problème. On va vers la fin du pétrole. On le sait tous. Donc il faut se battre pour justement essayer de développer des énergies alternatives et sur cette base-là, réfléchir au nucléaire. Comment on peut faire mieux? Certes, il y a des déchets. On a vu hier, on met les déchets dans des tunnels sous terre de longueur de 70 km. C'est effarant. Mais à côté de ça, comment faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer du pétrole aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire tomber notre civilisation? C'est pas possible. Donc, il y a des choix à faire. Mais ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Conscience collective, et que ce collectif puisse aussi entraîner la conscience individuelle. Comme pour les déchets, hein. Tout à l'heure on évoquait le pâté, il n'a pas d'emballage, le paquet de chips, il a un emballage. On en fait quoi? Donc aujourd'hui, notre société, elle a été formatée à quelque chose, et aujourd'hui on se rend compte qu'il faut changer la donne. Mais ça, il faut avoir le courage politique de le faire. Certes, je le redis, 100 euros, c'est bien, mais c'est pas là la solution. Il faut voir un problème plus global, et il aurait fallu s'y prendre il y a bien longtemps.
Aujourd'hui, le problème, c'est pas le problème vraiment du pétrole. Enfin, c'est bien, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une crise post-Covid et qui est une crise mondiale de l'économie mondiale. Et aujourd'hui, le pétrole s'enflamme parce que aujourd'hui, il y a des problèmes de production, il y a des problèmes de livraison dans le monde. C'est pour tous les produits, toutes les matières premières. Aujourd'hui, on a des problèmes sur tout s'enflamme parce qu'on a pénurie sur tout. Les usines ont été arrêtées, les transports ont été arrêtés. Le transport maritime s'est multiplié par 3. Un conteneur a coûté 2500 euros aujourd'hui.
Multiplié par 7 ou 6,
il coûte à peu près 8000 euros. Donc on a un vrai problème mondial de production. Et ce qui fait qu'à partir du moment où c'est l'offre et la demande qui pilotent, à partir du moment où l'offre est supérieure à la demande, ça augmente.
Ce qu'on peut espérer, c'est que ça va un peu se stabiliser avec le temps. Par contre... Le problème que pose Gérard, c'est un problème de fond plus long terme. Ouais. Il a tout à fait raison.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on peut pas mettre la poussière sous le tapis en permanence, dire on verra plus tard. D'ailleurs, on pourrait avoir même débat, et je sais que ça commence à monter, sur l'avenir de nos stations de ski. Est-ce qu'on continue à dire, ben non, on va continuer à perdre du ski? Bon, j'entends des discours très différents. J'entendais la vice-présidente...
On est d'accord, Jean-Claude, mais le vrai sujet, c'était le chèque à 100 euros.
Oui, oui,
et aujourd'hui, on est sur quelque chose, une inflation...
Le chèque à 100 euros, c'est comme l'a dit Gérard,
c'est un pipi-chat. Et le problème,
on calme les gens pour pas qu'ils
qu'on sort aussi du quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, il faut quand même remplir les caisses, parce que c'est bien beau d'un peu envoyer des sous pour calmer tout le monde, pour pas que les gens montent sur le rond-point, mais les caisses aujourd'hui, comment on les remplit? Parce que aujourd'hui, ils veulent pas faire baisser le prix de l'État, parce que la TIPP, ça rapporte quand même.
Ah ben
des milliards, on en a quand même jeté par la fenêtre. Et ça, c'est un vrai débat qu'on n'a pas actuellement.
Michel?
100 euros, c'est toujours mieux que rien. Sauf que, vous l'avez dit plus ou moins, on doit s'orienter vers un principe sociétal mondial différent. Ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Et la première chose à faire, c'est réguler la démographie planétaire. C'est la première chose à faire. Mais on ne sait pas faire. Et on ne sait pas faire développer l'économie sans développement démographique. Ça, c'est la grosse problématique. Aujourd'hui, si on arrive à trouver les mécanismes qui font que, ma foi, on va stabiliser, voire dans un futur, puisque les prospectives en 2100, on va avoir la population globale planétaire qui va commencer à se réduire, semble-t-il, s'il n'y a pas d'autres... problème majoritaire.
Ouais, mais en fait, 2100 quand même.
2100.
C'est pas demain.
Ça sera tout plus là, hein.
Deuxièmement, quand on s'aperçoit, effectivement, il faut prendre les choses à la base. Le chèque emploi, ben oui, on éteint la flamme qui démarre. Il vaut mieux faire ça plutôt que d'avoir un incendie. On n'y arrivera pas. Avec un extincteur, on n'y arrivera pas. Donc, il vaut mieux le prendre à la source. Mais la problématique, c'est comment on va organiser nos sociétés, avec quelle énergie, et est-ce qu'on pourra aujourd'hui espérer vivre demain dans les mêmes envies aujourd'hui
qu'on a aujourd'hui
en France depuis 40 ans, sans faire de procès à qui que ce soit. On a généré et inversé les droits et les devoirs, et on a fait croire qu'on pouvait avoir une vie facile, vie ludique.
Il faut qu'on s'adapte à la situation. Il faut que les individus s'adaptent. Il y a des choses, hein. Il y a des choses qu'on peut faire, par exemple.
Venant de toi, je suis ravi d'entendre ça, mais.
Non, mais par exemple, je te donne un exemple concret, Michel. Le covoiturage. Chaque fois qu'il y a une crise comme ça, tout d'un coup, on s'aperçoit que ça se développe. Putain, mais il faudrait que ça s'institutionnalise un peu plus, le covoiturage. Ça paraît une évidence.
Mais il y a Jean-Claude, il y a des choses qui vont rester du Covid, le télétravail.
Voilà.
Il y a une partie des
Absolument.
Choses. Les réunions en télétravail, quand on allait à Aix ou à Marseille
Absolument,
pour une bricole. Alors, ça peut pas tout faire, le télétravail, mais ça peut faire bouger les choses.
Absolument.
Là, vous réglez pas le problème. On aura toujours besoin de l'essence pour, même si on a besoin d'en moins, il y aura toujours de l'essence.
Mais déjà.
Prix de l'essence, il va pas baisser pour autant. Tu vois? Là, je reviens à ce que tu dis, Gérard, c'est que on n'a absolument pas anticipé.
Ton budget transport, tu vas le réduire si tu fais du covoiturage.
Mais là, tu parles de ton budget, mais l'avenir, le budget de la planète,
y a deux choses,
il ne va pas changer.
Deux choses, Thierry. Dans le problème du budget de la planète, il y a deux choses. Il y a d'abord comment on sort du pétrole. C'est une chose. Ça, on sait à peu près comment on va le faire.
La première fois que moi j'ai entendu qu'il fallait sortir du pétrole, c'était en 1974.
Avec le premier choc pétrolier.
On est en 2021.
Il faut qu'on sorte du pétrole, ça c'est sûr. Hein, on sait comment on va faire à peu près avec l'hydrogène et autres et tout. Bon. Mais la deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait du Moyen-Orient et des pays qui sont producteurs de pétrole? Parce que là, on déséquilibre complètement. Mais qui a l'argent aujourd'hui dans le monde?
S'ils n'ont plus de pétrole.
Ils n'ont plus de pognon. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est des puissances qui ont aussi un pouvoir économique et qui ont un pouvoir militaire.
Moi, je ne pensais pas qu'en balançant un chèque de 100 euros, on se retrouverait au Moyen-Orient. Hein. Là, c'est chaud.
On passe du coq à l'âne ou...
Ah ben complet, oui, c'est très grand écart. Le dernier, Éric Zemmour. Voilà, Éric Zemmour. On ne sait toujours pas s'il va s'engager ou pas, mais en tout cas, il y en a un qui est contre, c'est Fabien Roussel. Il veut interdire d'élection Éric Zemmour en raison de sa condamnation pour racisme.
Qu'il soit pas candidat.
Voilà, donc... Exactement. Je vous propose d'écouter, ce sera notre dernier sujet.
Vous voulez rendre inéligible toute personne condamnée pour racisme et incitation à la haine raciale. C'est
le meilleur moyen pour vous de combattre Éric Zemmour? Il ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle.
Bien sûr que non, ce n'est pas le meilleur moyen, parce que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va guérir la fièvre. J'en ai bien conscience. En revanche, nous sommes dans notre République française avec une histoire forte et des valeurs. Et je dis simplement que quand on se présente à la présidence de la République française, eh bien, on ne peut pas se présenter et avoir été condamné pour incitation à la haine raciale, pour discrimination, pour fait de religion. Par exemple,
prévu dans le code pénal, mais c'est laissé à l'appréciation des juges.
Exactement.
Ils n'ont pas jugé utile, précisément, de l'appliquer à Éric Zemmour.
Exactement. En tant que député, j'ai voulu creuser la question, justement. Donc je me suis penché sur le sujet. C'est pour ça que j'ai proposé une résolution, plutôt, au vote de l'Assemblée nationale. Une résolution qui invite le ministère de la Justice à faire circuler une circulaire, une instruction aux juges, au parquet, en leur demandant d'appliquer ce qui existe déjà dans le code pénal. Vous savez, le ministre peut dire sur tel fait, il faut veiller, la loi existe et il faut juger avec sévérité ceux qui commettent justement cette infraction. Ça existe dans le code pénal, donc il faut justement l'appliquer. Je fais confiance à nos magistrats pour l'appliquer. En tout cas, là, nous avons un personnage qui réhabilite Pétain, qui réhabilite Papon. On vient en plus de commémorer l'anniversaire du 17 octobre 61. Et c'est extrêmement grave pour notre pays.
Alors, mais est-ce que ce serait pas lui donner l'occasion, donc, à Zemmour de se poser en victime, de lui interdire de se présenter, et renforcerait par là même une partie de l'opinion dans le complotisme? Gérard.
Allez, je réponds. Déjà, sur le fond, c'est vrai que je mets un observateur plutôt qu'un commentateur de l'actualité d'hier ou d'avant-hier. C'est comment un personnage sorti de nulle part, en dehors de tout parti, peut arriver en quelques mois à ce niveau-là. Et la discussion qu'on a eue depuis une heure sur tous les sujets, souvent elle est liée à ce que notre société a fait de l'être humain. Quelque part, je considère ce manque de responsabilité. Il y a 20-30 ans, on n'aurait pas imaginé ça. Il fallait d'un regard qui est le nôtre pour être président de la République. Il fallait avoir une stature, il fallait avoir venir d'un parti, être structuré. Là, ce qui veut dire un peu l'effet Coluche, il y a
En 81, tout à fait.
Je veux dire que là, il y a un malaise qui est grave et qui m'inquiète, parce que comment peut-on permettre à une personne qui vient de nulle part d'avoir un tel niveau de sondage aujourd'hui? On ne sait pas s'il sera président de la République, mais il y a quand même des gens qui adhèrent.
Il y a un paquet. Hein.
Moi, j'ai bien aimé cette expression. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va réduire la température. Mais le problème, il est là. Et tu évoquais aussi, est-ce qu'on ne va pas en faire une victime? Bien évidemment qu'on va en faire une victime. Il n'est pas candidat, on parle de lui tous les jours. Donc, on fait de personnages qui n'existaient pas, qui, je ne mets pas en doute ses capacités à gérer la France, quoique. Mais on en fait un super personnage. Mais c'est ça qui est effarant dans notre société. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Avec mon statut d'élu aujourd'hui, je fais que je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais je me dis, mais où va-t-on? Et dans toutes les discussions que l'on a eues tout à l'heure sur tous les sujets, je m'interroge beaucoup sur l'avenir, parce qu'on sent qu'il n'y a plus de règles. Tout est permis.
Il n'y a plus de filtre.
Je ne vais pas dire c'est du grand n'importe quoi, mais c'est une forme d'évolution de notre société qui, quelque part, peut faire peur. Ce qui veut dire que demain, on est à l'incapacité totale de prédire quoi que ce soit, puisque au quotidien, on se rend compte que ce qui arrive, ce n'était pas imaginable. Donc c'est ça, quelque part, qui fait, peut-être aussi lié à mon âge, qui fait que l'avenir, il faut y réfléchir quand même collectivement. Je pense qu'on a un intérêt collectif. Ce n'est pas le jour où on fera le grand saut qu'il faudra y penser.
Moi, je pense que le problème, c'est pourquoi faudrait-il l'empêcher de se présenter?
Pour incitation à la haine raciale.
C'est pas le problème.
Il a été condamné.
Alors, donc, à ce moment-là, tu mets une règle stricte ou quoi?
Mais elle existe, la règle.
Si elle existe, on l'applique. Mais après.
Ce qu'expliquait Roussel. Elle existe. Après, c'est à discrétion du juge.
Si on l'applique, il faut l'appliquer. On applique un jugement. Mais moi, je pense que tu parlais de filtre tout à l'heure. Mais dans notre démocratie, moi, je pense que c'est bien qu'on puisse accéder à un moment donné, pourquoi pas, à la présidence de la République. On en a vu des uberlus qui se sont présentés.
Non, mais bien sûr. Mais le problème, c'est pas ce que disait Gérard, là. Il disait que le problème, c'est d'arriver de nulle part. Et puis, c'est surtout avec les idées qu'il a derrière.
Mais Macron, il est arrivé de nulle part. Il est arrivé de nulle part.
Oui, aujourd'hui, il n'y avait pas.
Il faut peut-être faire confiance au suffrage universel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, même s'il est candidat? Qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre les voix à qui? À Marine Le Pen.
Oui, et puis au LR aussi un peu.
Et puis au LR. Ouais. Mais je vais dire, moi je vois, je pense que Macron va être élu parce qu'il va.
Non, mais c'est pas ça le sujet. Mais, s'en fout. Le sujet, c'est de voir à quel niveau peut arriver ce gars venu de nulle part, même s'il a 20 ans de télévision, ce qui lui a donné quand même une certaine aura, de toute façon.
C'est pas tellement le coup qui vient de nulle part qui m'inquiète beaucoup. C'est
les
idées. C'est les valeurs et les idées qu'il porte. Quand on voit qu'il veut réhabiliter Pétain, relisez votre histoire. Hein.
Non, mais on connaît.
Pétain, il a quand même été condamné. Hein. Faudrait quand même pas l'oublier, quoi, pour des actes extrêmement graves.
Moi,
ce que je crains, vous savez, même s'il est pas élu, j'espère vraiment de tout cœur qu'il sera pas élu et qu'il sera.
On va déjà attendre qu'il se présente.
Qu'il se présente, mais qu'il sera surtout pas élu. Mais moi, je pense que là, on va vers une guerre civile. Hein.
Mais non.
Avec les idées qu'il porte. Non, mais écoutez ce qu'il raconte.
Non, mais bien sûr,
lisez,
j'écoute.
Ce qu'il écrit.
Mais lui, il dit qu'on est déjà dans une guerre civile.
Oui, mais lui, il accélère le mouvement. Il crée le mouvement.
Ah, c'est un incendiaire.
Attention. Et là, on risque d'avoir vraiment des réveils douloureux. Hein.
Ah, ça, donc, c'est sûr.
Moi, je vais vous dire, Fabien Roussel, s'il peut jouer cette carte-là, qu'il la joue. Hein. Il vaut mieux éviter une telle candidature. Hein.
Ça changera pas grand-chose.
C'est l'avenir qui nous le dira, le mot de la fin, très rapidement.
Disons que c'est aussi la véritable responsabilité, c'est tout ce qui s'est passé antérieurement. Et là, je rejoins donc Gérard. Qu'est-ce qui se produit? On se pose des questions, parce que ce qui a été construit aujourd'hui, les fondations de notre société, moi le premier, je suis ravi d'entendre ces paroles, les paroles que vous avez dites, c'est qu'aujourd'hui, moi je ne sais même pas me projeter dans l'avenir, je ne sais pas comment constituer une société moderne, respectable. Et vous avez parlé d'individualité, mais de collectivité, dans notre pays, ce n'est pas possible. Nos aînés ont créé des systèmes de solidarité, nos générations, on a généré l'individualisme. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, c'est le mot de
fin. Mais on a quand même des valeurs. Hein,
un dernier mot, Gérard, avant de se quitter.
Encore.
Avec plaisir, je reviendrai.
Ben voilà. C'est toujours un plaisir de t'accueillir.
Parce que la table est bonne.
Gérard Tenoux, qui était avec nous pour ce numéro 700 du Coq à l'âne. Merci Bruno, Michel, Jean-Claude. On se retrouve bien sûr, comme d'habitude, vendredi prochain. Passez un bon week-end, une bonne semaine. À vendredi.